Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle rencontre du 9e type. Je m'appelle Raymond Poirier, je suis animateur de La Vie en BD sur CKRL 89.1. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour ce rendez-vous, cette entrevue. Je vous rappelle le concept d'ailleurs, les rencontres du 9e type, ce sont des longues entrevues, des longues rencontres avec des auteurs du Québec, d'Amérique du Nord, d'Europe, et au fil desquelles ben, on va explorer certains albums, on va explorer un parcours, une démarche, une approche créative, bref, on jase avec des auteurs et des autrices. Donc, la série, une présentation évidemment de La Vie en BD sur CKRL 89.1, également du Festival Québec BD qui est derrière l'initiative. On remercie d'ailleurs nos partenaires. Et ben, pour cette nouvelle rencontre, pour cette semaine, eh ben, on va aller à la rencontre justement de l'autrice Sandrine Revel. Sandrine Revel qui, entre autres albums, puisqu'elle a quand même un long parcours, beaucoup d'albums derrière elle, et on s'attardera peut-être un peu plus à deux d'entre eux, quoiqu'on portera un regard quand même, on l'espère, assez panoramique. Et donc, deux albums tout particulièrement qui sont en notre esprit. Alors, Glenn Gould, Une vie en contretemps, et également Tom Thompson, Esquisse d'un printemps, donc deux bandes dessinées à caractère biographique qu'elle nous a proposé tout récemment pour Tom Thompson, en 2016 pour Glenn Gould. Alors, bon, on va aller explorer ces éléments, autant que son parcours et autres choses, en sa compagnie, donc en la compagnie de Sandrine Revel. Alors, ben, Sandrine Revel, bonjour.
Bonjour. Bonjour, Québec.
Alors, ben, d'emblée, peut-être que quand on regarde un peu votre parcours, il y a évidemment plusieurs albums, plusieurs types d'albums aussi. Vous allez du jeunesse à l'adulte sur différents sujets, de la BD biographique vers aussi certaines BD plus autobiographiques. Est-ce que on pourrait dire que dans votre parcours, il y a une nécessité de variété?
Oui, absolument. Il y a cette nécessité-là, certainement. La crainte de m'ennuyer, peut-être. La crainte aussi de répéter les mêmes choses. Le désir aussi d'explorer divers sujets qui peuvent être liés à la jeunesse ou liés à l'adulte. Donc, c'est cette nécessité de variété qui s'explique de cette façon-là, je pense.
Oui, parce que dans le fond, par exemple, Glenn Gould, vous aviez suivi avec un album jeunesse qui s'appelle Hey Jude, un peu sur votre chien. Ensuite, vous étiez tombé sur un album plus en musique. Donc, il y a, j'imagine, un défi de toujours repousser un peu sa zone de confort ou en même temps qu'il y a aussi certains questionnements, certaines préoccupations qui viennent et qui s'orientent un peu plus vers un style particulier, vers un ton particulier. Donc, est-ce que c'est un peu des choix au hasard ou c'est quand même un peu réfléchi ou...
Alors, juste pour préciser, j'ai commencé ma carrière il y a plus de 20 ans maintenant avec une série Un drôle d'ange gardien, hein, la série oui. Un drôle d'ange gardien, d'ailleurs qui a été récompensée une année à Montréal, au Salon du Livre de Montréal. J'ai commencé par de la jeunesse, certainement parce que je ne devais pas sentir encore les épaules assez costauds pour m'engager dans un projet adulte. Donc je reviens à votre question. Tous mes albums ont un lien avec moi, ont un lien avec ce que je suis. Ça va de Hey Jude. Alors Hey Jude, c'est facile. Je dessine mon chien, donc c'est vraiment voilà, c'est mon chien. Mais aussi c'est l'amour des chiens aussi, l'amour des bêtes aussi. Essayer de me comprendre ce qu'est un chien. Quand on a un chien, bah ça implique quoi. Donc je voulais expliquer ça aussi à des enfants qui prennent des fois ça pour un objet et s'en débarrassent dès que ça ne les intéresse plus. Donc, j'avais envie d'aborder ce sujet avec eux. Et puis Glenn Gould, c'est parce que c'est un artiste moi qui me touche personnellement, qui me remue, qui me questionne donc j'avais envie aussi de partager la vie de cet artiste avec avec les fans, parce que il y a énormément, énormément de fans autour de ce personnage, et puis ceux qui ne connaissent pas Glenn Gould, mais qui sont lecteurs de bande dessinée et qui se sont comme ça laissés embarquer dans ce biopic. Donc voilà, mais j'en ai fait d'autres, comme La Lesbienne Invisible. Ça aussi, c'est un sujet qui les minorités, comment elles sont perçues, comment elles arrivent à franchir l'exclusion, comment arriver à vivre sa différence. Il y a aussi N'embrassez pas qui vous voulez aussi, avec Marjina, qui aborde l'absence de liberté. Hein, donc voilà, ce sont à chaque fois des choix, les choix que je fais, les choix de collaboration aussi, hein, c'est très important. Tout ça est mûrement, pas forcément mûrement pensé, mais en tout cas, c'est désiré. Voilà, c'est désiré. Et après, je l'explique. J'arrive à l'expliquer, mais peut-être pas sur le moment. Sur le moment, je vais dire oui ou je vais dire non ou je vais réfléchir un petit moment parce que bah, c'est pas si évident que ça. Mais quand je prends la décision définitive, eh ben c'est parce que justement je me retrouve un petit peu là-dedans, quoi. Et
Oui,
ça va m'aider.
par exemple, on mentionnait Glenn Gould. En fait, j'avais l'impression qu'un peu en sous-jacent à ça, c'était toute une réflexion sur l'équilibre entre la création et la vie, entre la recherche aussi de maîtrise, la relation entre la vie normale et la vie créative. Donc, on est un peu dans ces thématiques-là qui ressortent, dans le fond, des éléments que vous avez mis de l'avant dans ce que vous avez proposé de la vie de Glenn Gould.
C'est tout à fait juste, hein. C'est cette vie qui personnelle qui s'entremêle avec la vie d'artiste, hein. Ça ne fait qu'un. L'artiste se nourrit d'eau et de pain, mais aussi se nourrit de tout ce qu'il croise, de ses promenades en forêt, de ses vacances au bord de l'eau. Juste regarder la mer, tout ça va le nourrir. Enfin, donc enfin, en tout cas, moi je considère, quand on est créatrice de bande dessinée ou créateur, hein, on est, je pense, dans cette bulle-là où tout se mélange. Beaucoup ont des ateliers chez eux, beaucoup ont du mal justement à mettre certaines limites. C'est vrai que oui, pour Glenn Gould et pour Tom Thompson d'ailleurs. Hein. Tom Thompson, et comme Glenn Gould, ne se sont jamais mariés, n'ont jamais eu d'enfants. Ils se sont consacrés presque comme des moines à leur art, quoi. Donc c'est vraiment la fusion des deux qui donne justement cette production aussi. Si abondante quoi, hein, donc chez Glenn Gould ou chez Tom Thompson. Donc les
Mais Tom Thompson, on le sent peut-être un peu dépassé à un moment donné par son art aussi, un peu.
dépassé, je sais pas si moi je l'ai pas ressenti comme ça. Alors je le sens beaucoup moins dans la maîtrise. Il est peut-être beaucoup plus dans une quête comme ça de vérité, de recherche, à chaque fois de se dépasser
Dans les frontières de la créativité, si on peut
les
dire.
frontières de la créativité, alors que pour Glenn Gould, lui, ça se situe pas forcément dans la création, mais dans l'interprétation et dans la manière de revisiter quelque chose qui existe déjà, donc à essayer, la quête de la vérité pour les deux, elle existe, mais elle ne se situe pas au même niveau. Voilà. Voilà, c'est.
Et peut-être, en fait, amorçons peut-être un peu la discussion sur Gould, tiens, puis on pollinisera vers les autres par la suite, mais peut-être d'emblée, pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de lire cette BD-là, dans le fond, dès les premières pages, l'intention est claire. En fait, on n'est pas dans une biographie qui est classique, qui est typique. On utilise le médium pour plutôt explorer l'esprit de Gould pour voir comment il percevait le monde. Et justement, en fait, dès les premières pages, on le démarre, on est dans son esprit. Donc, on est dans la biographie, mais plus dans une biographie impressionniste, dans le fond, ambiante, dans le feeling, si on peut dire, de Gould, que dans un ouvrage chronologique, si on peut dire.
Oui, il y a la construction narrative et n'est pas horizontale, n'est pas linéaire. J'ai voulu un peu comme dans m'imaginer un peu dans la tête de Glenn Gould et même dans nos têtes, hein, lorsqu'on se souvient de, parce que ça démarre sur le souvenir quelque part. C'est il a cet AVC et l'AVC en fait va mettre en relief, en évidence des moments de sa vie qui l'ont marqué et qui vont faire de cet enfant l'homme et le musicien. Donc j'ai voulu mais de manière pas forcément linéaire, hein. Lorsqu'on se souvient, on va faire des sauts de plusieurs années des fois, parce qu'on se souvient, on tombe sur un objet, puis cet objet il va nous ramener à notre enfance, mais il va peut-être aussi nous ramener à divers moments de notre vie, parce que il aura été tout le temps là. Donc j'ai voulu suivre ce schéma-là tortueux, labyrinthique de l'esprit d'une personne qui est en train petit à petit de perdre la mémoire et de se laisser partir, quoi. Donc et puis ça m'a amené donc forcément à rejoindre l'esprit certainement pas évident de ce personnage, quoi, hein, qui était pourtant c'était quelqu'un de très cartésien, mais qui était rempli de contradiction, voilà. Peut-être contrarié, hein. C'est peut-être quelqu'un de contrarié aussi, mais de contradiction, voilà, bourré de contradiction. Donc voilà, qui pouvait l'amener donc dans des directions opposées souvent.
Oui, voilà. J'aime bien un peu la dynamique de correspondance d'ailleurs là-dessus, dans la mesure où, par exemple, quelque chose qui se passe dans son présent, dans un élément va l'amener à penser. Un souvenir, il y a un côté très organique, en fait, j'aime le terme que vous avez utilisé dans la construction de la chronologie du récit, dans le fond.
Oui, c'est... mais c'est un peu... Enfin, encore une fois, hein, je pense qu'on on réfléchit tous de cette façon-là, enfin, peut-être, je ne sais pas, mais on est...
Enfin, on réfléchit tous de cette façon-là, mais j'ai l'impression que scénaristiquement, c'est pas si vous me disiez, ben ok, on se lance, on développe une trame biographique, ben je vais penser de facto au cadre chronologique. Je vais dire, bon, ok, on va y aller par événement, par date, trouver les éléments importants. Mais après ça, j'ai l'impression que de partir de ça et de la déconstruire pour aller chercher quelque chose de plus sensible comme narration, ça doit être un exercice qui est quand même passablement ardu, difficile.
Alors, au départ, j'ai commencé l'album avec comme ça une narration très linéaire. Hein. On commençait à sa naissance, hein, vraiment. On commence à sa naissance et puis on le voit enfant et puis ado. J'étais arrivée à une trentaine de planches je commençais déjà à m'ennuyer. Je savais que j'en avais encore pour un peu moins de 100 planches, donc je commençais déjà à m'ennuyer et ça c'est pas bon signe en général. Quand j'ai ce sentiment là, c'est que ça fonctionne pas ou c'est pas ce que je veux réellement faire. Donc j'ai laissé reposer une semaine ou deux, mais là où je suis partie vraiment loin de mon atelier, et puis je suis revenue et puis j'ai étalé les planches faites, je les ai mises dans l'ordre, et puis c'est là où j'ai commencé à me dire mais ça il faut que je déconstruise ça, il faut que je casse ça, il faut que je casse le, il faut que je me rapproche de l'esprit de cet homme et donc fracturer ces moments et les mélanger. Donc c'est venu assez rapidement. Et puis c'est revenu aussi parce que j'ai dans l'avion, j'étais partie loin, et puis dans l'avion, en revenant, j'ai lu un article et je vais peut-être le retrouver parce que je garde les choses. Je vais peut-être le retrouver là. Je vais peut-être le retrouver là, cet article. Ouais. Comme on est en direct. Je vais peut-être le retrouver dans ce carnet. Ah, c'était un article qui parlait justement de la mémoire et de la façon dont on rangeait les souvenirs dans notre mémoire, qui n'était pas du tout comme ça chronologique, de manière chronologique. C'était totalement. Je ne vais pas le retrouver, ça va durer sinon une heure et donc ce sera terminé. L'interview sera terminée. Donc je me suis dit, mais. Je vais suivre cette voie, je vais suivre cette voie. Et puis j'étais dans. Finalement, je pense que j'étais j'étais dans la bonne direction parce que je me suis rendu compte aussi après coup que ça formait aussi un contretemps, ces époques-là qui se percutent, créaient un rythme et une forme de contretemps entre le présent et le passé. Et donc j'étais totalement raccord avec aussi la recherche de Glenn Gould sur cette façon de jouer qui lui est très personnelle.
Et dans ce contexte-là, on pousse aussi dans la mesure où même quand on joue à ces allers-retours-là, il n'y a pas de datation. Dans le fond, on ne ressort pas avec « Ok, là, on est en 1928. » Donc, on reste un peu dans l'organique. On dirait que le côté immersif, on est dans son esprit, on est dans sa pensée. Donc, sa pensée n'est pas datée.
Oui, c'est au début, pareil. Hein, je me suis dit, bon, bah alors d'accord, je déconstruis, mais je vais quand même. Il ne faut pas que je perde le lecteur. Donc, je mettais des dates, des ci, des là. Et je crois qu'au final, j'ai enlevé les dates. Je crois qu'elles n'y sont plus. Je sais que dans Tom Thompson, c'est très présent, mais Glenn Gould, je crois que ça, les dates n'y sont pas ne sont pas notées, je ne crois pas.
Oui, on n'est pas dans le même concept non plus d'un à l'autre, en fait, parce que dans Tom Thompson, si on reste un peu dans la structure, dans Thompson, c'est un polar, c'est une enquête presque policière, si on peut dire. Donc là, les dates, la chronologie des événements deviennent essentielles au récit, mais plus par rapport au code que vous avez choisi d'aborder qu'encore là, dans une logique biographique. Donc, on doit faire correspondre les événements, tandis que dans Thompson, on est dans l'esprit, donc les dates deviennent moins importante, mais dans les deux cas, dans le fond, on choisit de faire de la biographie sans implicitement faire une BD qui est biographique, classique.
Mais c'est là où franchement, lorsqu'on est totalement raccord avec ce que l'on fait, et vous semblez comme ça, vous sortez les choses un peu comme une évidence, mais nous, parce que je pense à nous autres, hein, auteurs de bande dessinée, on se pose tellement de questions. Tellement de questions, puis des fois on se dit bon ben on verra après, je répondrai plus tard, donc à mettre les dates ou à mettre le nom des lieux, je me la suis posée mais 10 000 fois. Je l'ai posée aussi à mon éditeur Thomas Ragon, savoir bon moi je préfère pas, qu'est-ce que t'en penses, et tout ça. Donc on est vraiment sur un fil, quoi. Il y a des questions que l'on se pose, mais qui des fois peut faire basculer l'album vers autre chose. Et on est presque peut-être de l'ordre de l'intuition par moment où les réponses viennent rapidement, mais il y a des réponses qui mettent du temps à venir. Et après coup, je suis ravie parce que ça semble comme une évidence, mais au début, ça ne l'est pas. On se pose quand même beaucoup de questions.
Oui, bien, toujours l'élément de, dans le fond, OK, je fais un choix, mais est-ce que je fais le choix pour les bonnes raisons, pour le bon cadre? Est-ce que finalement, ça va être le bon choix? Et on dirait qu'on le sait seulement, dans le fond, quand on le propose au lecteur, quand on voit comment les gens vont reprendre, vont récupérer ce livre-là. Ou sinon, on revient un peu à ce que vous disiez, dans le fond, si vous aviez l'impression de vous ennuyer à un moment donné, ça ne collait pas, ça ne figeait pas. Donc, il y avait quelque chose organiquement encore là ou instinctivement de votre côté qui disait, OK, c'est pas ce que je cherche, c'est pas ce que j'ai envie d'écrire à ce moment précis-là. Ou...
Oui, et puis je trouvais ça trop classique aussi. Et Glenn Gould, il n'a rien de classique aussi. Donc, il y a tout ça qui m'a amené à me dire, mais le livre que tu es en train de faire ne sera jamais à la hauteur, enfin, je ne peux pas dire à la hauteur, mais n'aura pas l'ambition, en tout cas, de il fallait être ambitieux pour faire cet album et du coup prendre des risques. Voilà, j'en ai pris quelques-uns qui ont fonctionné finalement. Mais bon, c'était pas, je jouais d'avance. Hein, c'était pour moi en tout cas, parce que moi qui suis par contre, moi qui aime bien rester dans les cases, hein, les cadres, parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui éclate la case. Hein, elle est dessinée, elle est carrée, elle est. Il y a une forme de rigidité dans mon travail et dans ce que je suis aussi. Hein. Mais ouais, mais si, enfin, un peu quand même. Oui,
en fait, c'est que à la limite, j'ai envie de dire peut-être sur peut-être de rigidité dans le cadre, en fait, mais en même temps, comme je le reçois, c'est exemple, on fait les crayonnés, les contours des personnages, mais dans le décor, il n'y a pas vraiment de crayonné, il y a quelque chose de flottant dans le Ghoul qui ressort. Il y a une ambiance très forte aussi dans Thompson avec les ciels, avec les choix de couleurs, avec l'usage du noir et blanc, dans l'alternance, dans les séquences. Donc, je veux dire, en fait, il y a effectivement quelque chose d'assez cartésien, mais en même temps, quelque chose d'éclaté à l'intérieur du cartésien. Puis vous allez même jusque, par exemple, dans Ed Jude à faire des contours en rouge. Donc, on joue quand même un peu avec ces cases. En fait, je le reçois, là, évidemment.
Ben oui, mais parce que je suis incapable de faire une bande dessinée éclatée. Vous voyez ce que je veux dire, avec des cases qui à bord perdu, des cases triangulaires ou en forme. Voilà. Donc du coup, je me rattrape sur la narration, que j'essaye de peut-être de rendre un peu plus originale, ou même dans le contour des cases, en effet, ou dans le tracé, enfin voilà, l'originalité je la mets ailleurs, mais c'est vrai que bon, voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'ai besoin d'être cadré, j'ai besoin que mon dessin soit cadré. C'est protégé, enfin je sais pas, il y a comme une forme de protection autour de tout ça, protéger le dessin, quelque chose, voilà.
Avoir un ordre, avoir une logique.
Ne s'étale pas surtout, qui se range, voilà, qui soit rangé. Rangé, mais après, à l'intérieur de l'histoire, ça peut partir totalement dans tous les sens.
Mais en même temps aussi, si on reste dans Glenn Gould, il y a des séquences où il y a un peu trois degrés. Enfin, on a parlé un peu des souvenirs, on a parlé du présent avec l'AVC, son décès. Et à l'intérieur de ça, il y a un troisième élément qui est un peu le monde sensible. Dans le fond, on est dans l'esprit, on est dans des éléments un peu plus conceptuels aussi, dans l'organisation, dans les éléments, jusqu'à la fin de l'album où, tranquillement, dans le fond, tout ce qui l'entoure disparaît un peu, s'éloigne. Lui qui aimait beaucoup tout contrôler, justement, bien, il y a comme un laisser-aller qui l'amène vers le décès. Donc, il y a quand même des séquences comme ça qui sont plus symboliques, qu'on intègre aussi dans cette logique, peut-être, comme vous dites, un peu plus cartésienne, mais... Qu'on réussit quand même à amener un certain éclatement, ou qu'on réussit à faire prêter un certain éclatement aussi sur ce type de séquence-là plus onirique.
Oui, voilà, plus onirique. Plus onirique, surréaliste, je ne sais pas comment on pourrait... Mais c'est vrai qu'il y a progression de l'AVC, de cette maladie, et puis progression aussi dans la narration, où tout s'entremêle, où il se retrouve face à un arbre avec tout ce qui a été pour lui majeur dans sa vie, le piano, les médias, j'ai plus trop ça en tête, mais la maison familiale, tout ce qu'il a construit, quoi. Et puis bon, voilà, c'est de se lâcher prise, parce que c'était ça aussi. Il souhaitait tellement se lâcher prise que quand il y arrivait, c'était pour lui une délivrance, tellement il était tellement ça lui était difficile, tout le temps dans la maîtrise et tout ça. Donc le lâcher prise, je pense que ça a été sa première quête, quoi. Se laisser totalement porter par son jeu et par mais ça c'est vrai que pour tout artiste, c'est quelque chose qui est incroyablement fort le laisser aller, hein. C'est quand on atteint ce cap-là, c'est comme je sais pas, comme une naissance, ou je sais pas, c'est quelque chose de ou comme une forme de liberté, comme ouais, on se délivre de tout. Et oui, voilà, c'est vrai que ça me revient, ça me revient. Le processus, c'est particulier, hein, le processus de création, parce que quand on est dedans, on n'arrive pas du tout à l'analyser. Quand on n'est plus dedans, on arrive à l'analyser, mais on n'arrive plus à rattacher les wagons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à ça? Parce que, encore une fois, c'est beaucoup de questions qui fait qu'on arrive à ce résultat-là.
Et j'imagine que parce que vous parliez de laisser aller tantôt, qu'il y a peut-être un peu à un moment donné de laisser aller dans OK, la décision est prise, on y va avec ça, puis éventuellement il faut arrêter de les remettre en question parce que sinon ben, ça pourrait être perpétuel, on pourrait
Ah,
continuer comme ça longtemps.
oui. Mais des fois ça vient vers les dernières pages. C'est un peu comme je sais pas si vous faites un peu de course à pied, les premiers kilomètres, vous en faites un petit peu, non?
C'est un projet.
Les premiers kilomètres, si par exemple vous êtes parti sur 10, hein, les premiers kilomètres, les 3, 4 vont être assez douloureux, et puis il va y avoir un moment où ça va totalement basculer. Vous n'allez plus sentir votre corps et votre esprit va être totalement en roue libre, ainsi que les jambes. Et vous allez vous laisser totalement aller. Et là, ça va être vraiment le pied tonal parce que vous allez faire vos 10 km sans voilà, ça va partir. La machine va partir de manière tout à fait naturelle. Et en bande dessinée, surtout quand on est sur des grands volumes comme ça, d'une centaine de pages, et que le temps se réduit, au final, on est obligé des fois de produire beaucoup plus vite. Eh bien, c'est douloureux, mais au bout d'un certain temps, ouais, ça, on est sur une forme de roue libre. Et on n'a plus le temps de se poser de questions, mais quelque part, ça marche à l'intuition. Et on se fait un peu plus confiance. Et puis, on termine comme ça dans un pseudo lâcher prise. Mais quand on travaille tout seul, ça peut arriver. Quand on travaille à deux, c'est différent. Il y a toujours le scénariste qui va venir vous dire, bah, alors il va falloir reprendre telle planche, telle planche, telle planche. Et là, ça fait un coup moral. Mais quand on travaille tout seul, des fois, on a vraiment cette sensation de lâcher prise. Mais vers la fin de l'album, où on a répondu aux questions les plus évidentes, et après, on se fait un peu plus confiance et on laisse couler la machine, quoi. Donc, ça, c'est vraiment.
Donc, dans le fond, une bonne mise en place au départ où on dit, ben, par exemple, si on prend Tom Thompson, ben, voici un peu les couleurs, le cadre, les éléments qu'on veut mettre de l'avant, une base de scénario. Et j'imagine que, il y a beaucoup d'éléments qui se passent au crayonné où, dans le fond, le récit va se fixer dans sa forme, dans son cadre, dans sa mise en scène, du moment où on commence à ajuster un peu le dessin avec la parole, avec les différents concepts qu'on a choisi d'intégrer.
Oui, c'est tout. Enfin, moi, je travaille pas. Lorsque je travaille toute seule, hein, ce qui est le cas pour Glenn Gould et Tom Thompson, et eh ben, j'écris un séquentiel. J'écris vraiment quelque chose, une colonne vertébrale avec les différents éléments à ne pas oublier de traiter. Ouais, ils sont notés, mais voilà, ils peuvent changer de place à tout moment. Donc, je pars sur cette base-là. Et donc, ces séquences-là, eh ben, je les remplis, je les écris pas, je les dessine. Je vais faire des crayonnés de ces séquences. Et à l'intérieur de ces crayonnés, ben, là aussi, plusieurs possibilités. Soit j'inverse les planches, soit j'intervertis des cases, j'en enlève, j'en grossis. Enfin, voilà, là, je bricole à ce moment-là. Mais je dessine plus que je n'écris, en fait. Ce qui est des fois plus long, hein, ça paraît, c'est beaucoup plus long, mais par contre c'est du concret et j'ai l'impression J'ai l'impression d'être un peu de...
C'est ça, de voir le récit, de le sentir de cette façon-là.
Bah oui, de le voir, et puis voilà, j'ai la BD qui se construit, donc je suis pas dans un roman, je suis vraiment dans une BD, donc il y a ça aussi, peut-être aussi il y a ce côté rassurant aussi de cette BD qui prend petit à petit forme, quoi. Donc j'avance séquence par séquence, et puis il y a des séquences que je vais garder, puis des séquences peut-être que je ne vais pas garder, donc ça fait des fois une, deux semaines de travail pour rien, mais bon, ça voilà, c'est toujours pareil, c'est pas important dans le sens où voilà, je sais ce que je veux, et donc voilà, mais je teste des choses, donc ça peut prendre un peu plus de temps, et comme je travaille sur tablette, ben que ces changements de cases ou ces changements de planches et tout, ben ça peut se faire très rapidement, je dirais pas à la vitesse de la pensée, mais rapidement. Très rapidement. Donc, ça permet de gagner du temps de ce côté-là et de pouvoir jouer sur différents plans. Vous voyez, poser la caméra dans un sens et essayer de la poser dans un autre, voir un peu ce que ça donne, quoi, comme point de vue et ce que ça apporte au récit, surtout. Ouais.
Et en même temps, des fois, la tablette a l'effet pervers de pouvoir nous amener à un certain degré de perfection, mais d'un autre côté, pour sentir, c'est, prenons par exemple Tom Thompson, ben, faut qu'il y ait, je dirais pas des imperfections dans les traits, mais il faut qu'on sente un côté concret, dans le fond, au trait numérique, donc de trouver à la fois les éléments qui vont nous permettre d'aller chercher cette sensation-là, puis à la fois l'imperfection qui garde un peu dans le côté artisan, qui offre un ressenti, si on peut dire, à l'intérieur du trait. Je pense aux vagues, je pense au ciel, des éléments où il y a beaucoup de richesse là-dedans, mais il faut qu'on sente aussi que le trait vient d'une force, le trait vient de vous au départ.
Oui, bah oui, c'est aujourd'hui, on a vraiment des logiciels, des applications qui font que on a quand même le trait être vraiment graphiquement proche du travail traditionnel, mais il y a quelque chose que l'on n'a pas sur la tablette, je pense, c'est quand même le grammage, le papier, la résistance du papier, du crayon sur le papier ou de l'encre sur le papier, ce genre de choses qui va... Bah oui, ça on l'a pas. Ça, c'est, enfin, ou alors il faudrait passer du temps à créer c'est vraiment ces pinceaux, mais non, je pense qu'on l'a pas. On l'a pas. Ce qui change aussi avec la tablette, c'est comme tu dis, on peut grossir la case, on peut aller dans le détail, mais donc ça prend une dimension un peu. Je pense que c'est des choses que l'on pourra comparer très rapidement plus tard. On pourra voir les albums en traditionnel et les albums avec tablette, même si les deux sont techniquement, on ne voit pas la différence. Je pense qu'on verra quand même la différence dans la façon d'aborder une case, parce que voilà, on peut aller beaucoup plus dans le détail et mettre beaucoup plus de choses dans une case avec une tablette que dans une case avec du papier. Voilà. Tout simplement parce qu'on peut grossir et on peut voilà. Mais bon, je me sers beaucoup de cet outil parce que justement, je peux revenir sur mes crayonnés, je peux et que je perds énormément de temps dans mes crayonnés, donc j'en gagne par la suite. Et bon, voilà, il faut quand même
faut avancer. et dans tout ça aussi, peut-être une question qui m'a toujours surpris, est-ce que, ben, enfin, pas toujours, mais bref, Glenn Gould, dans le fond, on met en scène la musique, le rythme, à la fois, il y a des séquences où justement on le voit en train de jouer, il y a une souplesse, ou sinon, dans l'idée un peu du ressenti face à la musique. Dans Thompson, là, on parle d'un artiste visuel, donc là, on est plus dans le défi d'essayer d'intégrer son univers visuel à l'intérieur de la bande dessinée biographique. Donc, Il y a un défi particulier. Est-ce qu'un des deux défis est peut-être plus complexe au niveau du dessin, dans le fond, d'aller puiser son inspiration et d'aller rendre l'expérience musicale, ou d'aller puiser son inspiration et d'aller rendre à l'intérieur d'un médium visuel quelque chose qui appartient déjà ou qui relève déjà du visuel?
Les deux sont difficiles, hein. Les deux sont difficiles. Les deux sont des... Moi, je suis allée dans cette direction parce que justement, ça m'intéressait de traduire en dessin la musique et puis d'essayer de traduire aussi l'art pictural en BD sans représenter, sans mettre, sans peindre à la façon de Tom Thompson, sans jouer de tous ces artifices qui ont déjà été travaillés par ailleurs sur d'autres albums où il y a des albums où c'est fait à la façon Van Gogh, où il y a d'autres albums où on voit les tableaux à la manière de Monet, je sais pas, tout ça. Donc j'avais envie de donner l'envie de voir, de connaître Tom Thompson. C'est ça en fait. Je savais que Tom Thompson était en France, hein, totalement inconnu en France et puis en Europe, hein, totalement inconnu. Donc du coup, je me suis dit, je vais leur donner envie de voir. C'est une phrase d'Agnès Varda aussi qui disait. Moi, parce qu'elle disait, mon cinéma, c'est de laisser voir, de ne pas montrer, mais de donner à voir, de donner l'envie de voir. Je crois que c'était un truc comme ça. C'est ce que je voulais aussi dans Tom Thompson, c'est que les gens s'intéressent au personnage, trouvent son destin totalement incroyable, et puis vite aller la première chose sur internet, Tom Thompson, taper ton nom et voir vraiment ses peintures et tomber peut-être voilà, que ça se révèle de cette façon là en fait, que le mystère Tom Thompson aussi reste un petit peu au-dessus de l'album, et puis que les gens s'y intéressent. Et pour la plupart, hein, que j'ai croisé des lecteurs, ils m'ont dit, mais on ne connaissait pas, on a découvert grâce à vous, parce qu'on est allé sur Internet, c'était incroyable ce qu'il faisait et tout ça. Donc, la signature artistique de ce peintre, mais en filigrane dans l'album. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des peintures de lui dans l'album. Elles sont présentes, ces peintures, mais elles sont traduites en bande dessinée, elles sont traduites dans le décor de BD, ou alors en gros plan de manière abstraite, c'est des détails qui se deviennent abstraits dans la BD, des choses comme ça. Et donc l'esprit Tom Thompson est là, hein, finalement, puisque de toute façon, en plus, étant donné que c'était un peintre qui peignait sur le vif, hein, donc c'était naturel aussi de peindre son décor, ce qu'il peignait, de le peindre, enfin de le dessiner dans la BD, puisque c'était ce qu'il peignait de toute façon.
Le fait que la BD soit située à l'intérieur de finalement ses décors, à l'intérieur de ses lieux de prédilection, ben force à revisiter, et ce qui fait qu'au bout du compte, ben, l'œuvre de l'artiste aux côtés d'images prises peut-être sur place, aux côtés d'autres éléments, devient une partie de la documentation visuelle aussi pour comprendre un peu l'endroit. Et j'imagine pour voir aussi comment lui il percevait, parce que c'est là où ça devient du côté du ressenti, de s'animer à la fois de sa représentation, mais à la fois de comment vous percevez sa perception, comment on crée une relation en deux artistes par le biais d'un regard partagé, dans le fond?
Je sais pas. Je sais pas si je suis allée jusque-là, quand même, dans mon travail. Parce que si j'avais vraiment voulu faire ce que tu dis, là, j'aurais essayé de reproduire ces peintures, mais... Parce que c'était comme ça qu'il les percevait, lui. C'est normal, enfin voilà.
Mais en même temps, ça aurait été plus à sa manière, à lui, dans votre trait, alors qu'il fallait que ton trait, dans le fond, soit là. Il fallait qu'on reconnaisse Sandrine Revel à l'intérieur de ça, que tu trouves. Donc, dans le fond, on se met plus en relation par rapport à ce que l'autre a fait. On s'en sert d'inspiration, mais pas juste de copier le visuel, mais aussi le ressenti qu'on a par rapport à l'œuvre.
Ouais, alors voilà, c'est parce que c'est vraiment un ressenti. Je suis jamais allée en plus dans le parc Algonquin, donc c'est plus que ressenti, hein. Donc c'est totalement du ressenti, mais aussi je pense qu'il y a je cherche mes mots parce que parce que voilà, je dessine en fait. Moi, je suis quelqu'un qui dessine, je ne suis pas quelqu'un qui parle. Hein. Donc, imaginez un dessinateur, il ne parle pas pendant plusieurs... Il peut ne pas parler pendant plusieurs heures. Hein. Il parle à ses cases, il parle à ses personnages, mais il ne parle pas. Donc, autant je veux être précise dans mes dessins, autant j'essaie de l'être dans mes mots. Mais j'ai perdu le fil. Bon, ce n'est pas grave, mais...
C'est pas grave, mais à la limite, ça mène presque à dire aussi, tu sais, Thompson, c'était aussi une figure solitaire. Je veux dire, la page couverture l'illustre bien, tout seul au bout, au milieu du lac, l'air un peu perdu au bout du monde. Puis finalement, c'était lui aussi un solitaire. J'imagine que c'est, quand on parlait de perception, de ressenti, ben, il y a un ressenti partagé qui vous parle, de la recherche de solitude, de la nécessité aussi dans la création de cet ermitisme-là, d'une certaine façon.
Oui, beaucoup, hein, beaucoup d'artistes que j'apprécie sont des solitaires. La solitude, oui, c'est quelque chose qui me parle. Et Tom Thompson, ouais, c'était un poète solitaire. Glenn Gould aussi l'été, l'a recherché même. Ce sont des artistes qui vivent avec un monde intérieur très riche, quoi, hein, qui sont nourris de ça aussi. Hein. Après, je pense que Tom Thompson, il devait avoir un sacré caractère aussi, donc je pense qu'il préférait peut-être des fois s'éloigner et se retrouver dans la nature parmi les animaux et tout ça, peut-être parce que il avait peut-être du mal aussi à communiquer avec ses semblables, hein, et apparemment, hein, il avait l'air d'être assez bourru, quoi. Hein, et c'est ça aussi qui m'intéressait dans ce personnage, ce côté, je sais pas, il faisait pas 2 mètres, mais presque. C'était un bûcheron, il avait une carrière de bûcheron. Et j'ai vu plusieurs fois ses pochades à Toronto, là, au Musée des Beaux-Arts, je crois, de Toronto. Ouais. Elles sont toutes petites, hein. Elles sont vraiment de ce format-là. Donc, je l'imagine avec ses gros doigts, avec son petit pinceau à 3 poils à peindre ses pochades. Et je trouve que c'est il y a quelque chose de très très sensible derrière tout ça, quoi, de très touchant. Très touchant et c'est contradiction, toujours pareil, qui m'interroge dans la vie de certains artistes. Voilà,
Et vous avez amené peut-être des éléments de réponse déjà à la question que je vais vous poser, parce que dans le fond, je l'ai mentionné, Tom Thompson, c'est aussi un récit policier autant qu'un récit biographique. Dans le fond, les circonstances de la mort de Thompson restent mystérieuses, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Dans le fond, t'es face aussi à un personnage qui est peu connu du côté de l'Europe, voire pas connu du tout. Donc, le ressort policier servait un peu à la fois, dans le fond, d'une façon de présenter la chronologie, les moments, les faits saillants de sa carrière, à la fois une façon d'intégrer ou d'amener ce personnage-là vers un public européen, lui offrant une autre façon de plonger dans cette vie-là?
Oui, oui. C'est toujours pareil. C'est des BD autour de peintres. Bon, ça a déjà été fait. Je trouvais ça intéressant, justement, que, comme tu dis, que les gens ici ne connaissent pas cet artiste, et donc je pouvais les amener, en effet, sur les intéresser, en tout cas, en partant de ce de ce point de vue-là, du mystère Tom Thompson, quoi, en partant du jour de sa mort, et comme ça, mais là, toujours pareil, repartir en confrontant deux époques, arriver vers la genèse, je dirais, ce qui a fait le déclic à un moment donné, qui a fait que cet enfant est devenu peintre à un moment donné, ou ait eu le désir de devenir peintre. Donc voilà, donc c'est la construction de cet album, elle s'est faite à l'inverse, déjà pour rompre la monotonie. Voilà. Je suis dyslexique, hein, donc c'est. j'ai testé. Il faudrait que je le travaille, ce mot-là. Hein. Voilà. Et en même temps qu'on a les quatre enquêteurs qui de trouver le corps de Tom Thompson en se disant si je trouve le corps nous aurons la vérité sur sa mort, et ben en même temps que ces quatre personnages creusent, et bien le récit c'est pareil, c'est comme si on creusait dans le récit et qu'on arrivait aussi à la réponse qui arrive à la fin, quoi. Donc c'est on a ces deux visions qui sont presque identiques, quoi, dans la symbolique. On creuse dans sa tête pour savoir d'où viennent nos peurs, d'où viennent nos angoisses, ce genre de choses. Là, on creuse petit à petit dans l'album, on se débarrasse des pages pour arriver jusqu'à la dernière page, il ne reste plus qu'une, et on a une vérité. Je avertis les lecteurs, on a une vérité. Sachant que c'est bien.
Et en même temps, à travers votre parcours, dans le fond, on a beaucoup parlé évidemment de Glenn Gould, de Tom Thompson, donc BD biographiques. Vous avez donné aussi dans des BD témoignages, mais en portant la parole de d'autres. Je pense à Océan Rosemary dans La lesbienne invisible, notamment. Dans Je suis top aussi, un peu par extension. Mais vous avez tenté une fois seulement, à date, à ma connaissance, votre expérience personnelle par le biais du médium BD avec le 11e jour. Vous reveniez sur les moments précédents, le 11 septembre, où vous étiez, dans le fond, à New York, vous avez visité le lieu, et un peu de nécessité à un moment donné de rendre l'intimité de cette journée-là, de la narrer pour s'en décharger. Mais vous n'avez jamais, en dehors de cette expérience-là, tant mis de l'avant votre propre vécu ou vos propres perceptions. Vous avez plus tendance à les mettre à travers les mots d'expérience de d'autres.
Oui, le 11e jour est une expérience, une parenthèse, quoi, hein, je dirais. Enfin, c'est vraiment particulier, le 11e jour. Hein. Au départ, je l'ai réalisé pour ne pas oublier, cette journée-là, qui a été puissante dans ma vie, et donc je l'ai au lieu de l'écrire, je l'ai dessiné, mais c'était pas pour évidemment, dans ce livre, vous voyez, comme j'ai là, ça devient plus difficile pour moi de parler de cet album, parce que c'est vraiment tellement personnel. En fait, je voulais pas le faire, cet album, au départ. Je n'avais aucune envie de faire une BD sur le 11 septembre. Il s'est trouvé que j'ai croisé la route. En novembre 2001, j'ai croisé la route d'Étienne Davodeau lors d'un salon, hein, c'était à Blois, et donc on dîne ensemble, avec d'autres auteurs, tout ça. Et puis voilà, moi, tout le monde parle de ci, de là, de leurs vacances. Et moi, je parle des miennes, donc, qui se passent à New York le 11 septembre. Bon. Et Étienne me dit, mais écoute, c'est fou, moi aussi j'ai vécu quelque chose de très fort aussi dans ma vie, et je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir dessiné. Est-ce que tu as déjà pensé parce que tout ce que tu me dis est tellement fort, il faut absolument que tu gardes toute cette émotion là, parce que tu vas voir, elle va s'atténuer au fil du temps. Tu vas perdre tout ça, puis tu vas passer à autre chose. Et puis bon. Et donc voilà. Et j'ai dit, bon, c'est vrai, il a pas tort. Bon, c'est vrai que là, c'est tout frais. Et puis j'ai tellement ressenti de choses en moi, des choses qui ont été des déclics, quoi. Et puis voilà, puis ça fait son chemin, et puis finalement, bon voilà, j'ai fait cet album. Je l'ai fait avec encore beaucoup d'émotions. Je me souviens, ça a été presque une thérapie pour moi. Je le faisais, mais j'avais l'impression que je me vidais quelque part. Je me vidais, mais c'était pas forcément très. Ça m'apportait pas forcément beaucoup de joie, je dirais. Ça a été très douloureux, presque. J'ai presque mis en route une dépression, quoi, hein, en faisant cet album. Donc, au lieu de m'en dégager, je presque parce que ça a mis en fait en éveil le deuil que j'étais en train de faire, hein, sur la mort de mon frère. Donc c'était donc tout ça a fait ressurgir beaucoup de un état compliqué. Et donc voilà, et donc cet album, il est là, et c'est dommage parce que cet album, j'ai du mal à le regarder, alors que je l'ai fait justement pour me souvenir, mais j'ai du mal à le regarder parce qu'au niveau du dessin, il est noir, je trouve, il y a trop d'émotions dedans. Il manque de maîtrise. Voilà. Il manque de maîtrise. J'ai voulu mettre beaucoup de choses, et puis j'aurais peut-être dû. Donc,
c'est plus difficile d'aborder une histoire dans laquelle on est complètement centré, puis dans le contexte d'une émotion qu'on vit encore, dans le fond. Ouais, s'il n'y a pas une distance avec le ressenti, mais c'est plus difficile de le rendre narrativement, ou c'est une autre expérience de création, tout le moins.
Ouais, ça c'est une expérience, ça c'est sûr, hein, de création. Après, voilà, la grosse difficulté, bon, c'est de raconter ses émotions, mais c'est de se dessiner aussi. Hein, ça c'est, ça paraît évident pour certains. Moi, j'ai beaucoup de mal à me dessiner. Quand je me dessine, je me dessine en petite fille. Je me dessine. Et là, j'ai l'impression d'avoir 12 ans, quoi, dans cet album. C'est alors aussi parce qu'il y a une forme de vérité, certainement. Je me sens à ce moment-là peut-être comme une enfant. Comme une enfant, je suis totalement perdue dans cette ville que je ne connais pas. Je ne connais pas la langue, je parle très mal l'anglais. Du jour au lendemain, je me retrouve dans un pays en état de guerre. Donc, c'est très, très. Une expérience, bon, je sais pas, je suis pas encore prête à refaire cette expérience là parce que c'est, je vous dis, c'est ça, je préfère mettre un peu de moi dans tous mes albums, comme ça mettre un peu en dispersion dans mes albums, et je préfère ça que de me dessiner aussi frontalement, et de me montrer aussi frontalement aux autres comme ça.
Des fois, de porter le discours de quelqu'un d'autre, par exemple, en magnifiant, en l'amenant, tu sais, je pense à La lesbienne invisible, où on prend un discours de Saint Rosemary sur, dans le fond, les préjugés, les stéréotypes envers l'homosexualité féminine, envers les lesbiennes. Ben, tu sais, on magnifie ce discours-là dans Je suis top, même chose, mais avec la place des femmes dans les dynamiques de hiérarchie. Encore là, il y a une volonté, j'imagine, de porter certaines causes, de porter certaines préoccupations, certaines sensibilités. Si c'est le cas avec Glenn Gould, Tom Thompson, où on disait qu'artistiquement, c'est des biographies qui soulevaient des questions, des préoccupations, ben, nécessairement, dans des ouvrages un peu plus militants, si on veut, dans le fond, il y a aussi ce côté personnel-là qui ressort. Dans le fond, il faut que ça vous rejoigne, il faut que vous ayez envie de porter cette parole-là.
Oui, ben, voilà, il faut en avoir envie, et puis faut le connaître aussi, hein. Faut y avoir mis un pied dedans aussi, parce que c'est la lesbienne invisible. C'est vrai que c'est un milieu, l'homosexualité et l'homosexualité féminine, c'est un milieu aussi, hein. C'est des codes, c'est toujours intéressant quand même de connaître tout ça pour pouvoir mieux en parler. Donc c'est moi en tant que femme, en tant que femme et en tant que créatrice aussi, je pense aussi à Je suis top, la condition de la femme dans des milieux, dans le travail où la majorité sont des hommes, c'est ça aussi, ça m'a intéressé d'aborder ce sujet-là aussi, où la difficulté de franchir les marches pour arriver jusqu'en haut, ça c'est dans certaines grosses boîtes qui il y a aussi le. J'avais fait un livre il y a, je sais pas, en 2009, je crois, qui s'appelle Résurgence, femmes en voie de resociabilisation aussi. Ces femmes qui, quand elles ont 50 ans, ont énormément de mal à retrouver un emploi. Voilà, c'est des choses qui me touche pas personnellement, mais qui, en tant que femme, je trouve qu'il est important aussi d'aborder certains sujets qui, aujourd'hui, ça paraît, parce qu'aujourd'hui, on en parle,
le passé étant ce qu'il est, on n'en parlait pas toujours, on n'en parlait pas toujours bien non plus.
C'était un peu invisible, un peu mise de côté, et puis on n'en parlait pas, et puis voilà, donc c'était.
Et dans une dynamique où, j'imagine, est-ce qu'on pourrait dire que dans des ouvrages où on porte plus un discours qu'un personnage, qu'on aborde quand même la création un peu de la même façon, qu'on pourrait dire que, par exemple, dans Lesbienne invisible, l'approche de travail pour réussir à mettre en image ces éléments-là, est-ce que c'est un travail qui est un peu similaire à celui que vous aviez fait dans vos BD biographiques d'artistes, ou au contraire, parce qu'on n'est pas exactement dans le même objectif, on n'est pas exactement dans le même ressenti, ben, la méthode de travail s'adapte aussi pour porter peut-être plus un discours, une vision qu'une personnalité? Ou avec Océan Rosemary, ben, par exemple, dans ce cas spécifique-là, ça permettait d'aller vers la personnalité quand même?
Bon, déjà dans la méthode, hein, c'est différent, parce que je travaille avec un support écrit, hein, un texte, donc les dialogues et l'histoire sont d'Océane Rosemary, donc moi j'ai une trame, hein, qui est écrite, et je me colle à ça. Déjà dans la méthode, c'est totalement différent, j'ai une partition, et puis ensuite c'est tiré d'un spectacle comique, donc il faut là aussi l'exercice, je dirais la complexité, c'est de faire ressortir le texte autant que possible, aussi bien que possible, avec un rythme qui est totalement différent. Le rythme d'une lecture de bande dessinée n'est pas le même rythme qu'un woman show. Donc il y a des gags qui certainement ressortent différemment. Donc c'est voilà comment c'est-à-dire que la BD elle a cette difficulté là, c'est de quand elle fait une adaptation d'un texte d'un woman show, c'est de pouvoir d'arriver à faire ressortir les gags, mais elle a aussi cet avantage, c'est que tous les personnages sont créés, tous les personnages existent. Dans The Woman Show, Océane Rosemary incarne tous les personnages. Bon, mais moi, je les dessine, je leur donne un visage, je leur donne voilà, je leur donne une posture. Donc voilà, donc avec les deux, ça se complète, je dirais. Mais pourquoi Océane Rosemary a accepté, ça c'est une question qu'il faudrait peut-être lui poser, mais quand je lui ai proposé l'adaptation, elle a tout de suite dit oui, et elle m'a dit c'est j'y pensais, c'est quelque chose qui trottait aussi dans ma tête, donc je me suis dit bon, dans ces cas-là ça doit exister en bande dessinée, si tu l'as écrit aussi en y pensant, c'est que je peux peut-être arriver à faire quelque chose avec, et après au-delà de ça, bah c'est un médium qui touche aussi la bande dessinée, qui touche aussi beaucoup de personnes, donc à la fois du milieu gay, lesbien, mais aussi qui peut être offert aux parents, qui peut être offert aux grands-parents. Enfin, il y a de tout. Mais c'est moi, voilà ce que je recherche aussi. Je fais des BD. Je fais pas des BD forcément en pensant au lecteur. J'y pense un peu parce que l'éditeur, des fois, il m'interroge sur ça, mais je fais des BD d'abord pour moi, mais je suis tellement contente qu'ensuite qu'ils trouvent des lecteurs et que ces lecteurs-là que ça leur serve quelque part à quelque chose, que ça les nourrisse, voilà, que ça leur donne l'envie, que ça leur fasse découvrir quelque chose ou révéler quelque chose, j'en sais rien, mais voilà, c'est ça qui m'importe aussi. Donc,
j'ai l'impression que ça transcende aussi dans le jeunesse, parce que on parlait en début d'entretien de Hey Jude, où on amène aussi le questionnement sur l'animal, sur l'adoption d'un animal. Dans la BD Un drôle d'ange gardien, vous amenez aussi, quand on tombe surtout dans les portions, dans la réalité, en fait, des réflexions aussi, des thématiques comme l'adoption et d'autres trucs. Donc, il y a une volonté de questionner, de profiter de cet espace de dialogue, de proposer quelque chose au lecteur au-delà du visuel, au-delà du narratif, mais aussi des questionnements ou une possibilité de se confronter.
Oui, mais bon, j'espère que ça se voit pas, que les ficelles ne se voient pas autant. Enfin,
oh ben là, on est dans l'analyse des ficelles plutôt que.
Mais bon, ouais, bien sûr, oui, il y a toujours une intention. De toute façon, il y a toujours cette intention-là qui plane et qui dit, ben voilà. Ça... Bon, pour Hey Jude, vraiment, j'avais envie de faire quelque chose d'assez pédagogue, quoi. Parce que j'ai un chien, je le promène dans les parcs, et ça me rend triste quand je vois des enfants faire un écart de 5 mètres, quand ils voient un chien, ils ouvrent les yeux, ils ont peur, ils se mettent à hurler, ils courent, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire. donc je me suis dit, mais un jour, il faudrait que je fasse une BD, et cette BD va m'amener à aller en classe et à parler de ça justement aux enfants, leur dire voilà, c'est quoi un chien, qui a un chien, qui n'en a pas, comment vous en occupez, machin, parler de ça avec les enfants et essayer de les éduquer par rapport à ça, parce que vous, je sais que vous, c'est différent. D'ailleurs, j'adore me balader au Canada. Je trouve que vous avez un rapport différent avec les animaux. Nous, on a quelque chose, enfin, on est très, on est très primaire, quoi. Enfin, l'éducation des chiens, ça, c'est quelque chose qui est secondaire chez nous, même. Les gens ne s'y intéressent pas du tout. Je sais que chez vous, vous avez un peu plus cette sensibilité-là, éduquer les enfants qui éduqueront plus tard leurs chiens, j'espère, qui seront des chiens gentils.
Et Sandrine Revel, on arrive à la dernière ligne droite de la rencontre. Peut-être avant de vous laisser aller, 5 petites questions rapides qu'on lance à nos invités. Pour commencer, peut-être quelle serait la première bande dessinée que vous avez lue?
La première bande dessinée. Alors, la première bande dessinée, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens d'avoir. Je me souviens de. des dessins vaguement, mais je ne me souviens pas de l'auteur. Pourquoi? Parce que c'était des bandes dessinées que ma maman me ramenait de son travail. Il y avait une coopérative, je travaillais dans une administration, il y avait une coopérative, et quand j'étais malade, j'étais sujet à des otites quand j'étais enfant, donc je restais à la maison. J'étais gardée par mon père, mon frère, et quand elle revenait du travail, elle me ramenait des BD qu'elle avait achetées à la coopérative. Donc c'était, je sais pas, des BD, ça devait pas être terrible, hein, mais et donc j'ai un rapport à la BD déjà comme un médicament. C'était mon petit plaisir, c'était ma petite surprise, c'était voilà, le réconfort. Et je me souviens pas donc de la BD parce que c'était, je sais pas, c'était un genre de collectif. En plus, il y en avait plusieurs, il y a plusieurs auteurs maintenant. Mais voilà, c'est en tout cas, c'est le souvenir que j'ai de ma première BD.
La bande dessinée que vous avez le plus lue et relue.
J'ai regardé pas mal dans ma bibliothèque. Alors, je vous montre ma petite bibliothèque. Là, je suis dans mon atelier. Hein. Vous voyez qu'une partie de mon atelier, mais là, donc, j'ai ma petite bibliothèque. Bon, voilà, c'est tout. Et puis, j'en ai un peu partout, hein, des livres, hein, dans la maison, mais.
Oui, ça traîne, ces petites bibites-là.
Pardon?
Ça traîne, ces bibites-là, un peu partout, tout
Oui, je traîne, voilà.
le temps.
Il y en a une qui ressort régulièrement et qui est sans texte, qui s'appelle Là où vont nos pères. Là où vont nos pères. Voilà, je la ressors, je la lis dans tous les sens, je la regarde, je la détaille, je la. Voilà, elle m'apporte du réconfort, elle me donne la pêche, elle me donne l'envie de me surpasser, elle me donne beaucoup d'énergie, cette BD.
Et autre que cette BD, est-ce que vous auriez une BD qui vous a marqué, le plus marqué? En fait, là, je vous donne le choix, en fait, personnellement, professionnellement ou les deux. Donc, la BD qui vous aurait le plus marqué.
Alors, il y en a deux. Il y en a deux, donc sans hésitation, la première c'est Jimmy Corrigan de Chris Ware. Bon, moi j'ai lu tardivement les BD, hein. J'ai dû commencer à les lire, à vraiment m'y intéresser, je dirais, hein. Je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Donc celle qui a vraiment, celle vraiment que je trouvais. Alors, Jimmy Corrigan, quand j'avais 20 ans, donc il y a 30 ans. Alors, je l'ai trouvé en import dans une librairie, en petit fascicule en fait. Hein, les Jimmy Corrigan, il n'existait pas encore en gros volume de Chris Ware. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux
Oui.
dire? Et donc ça existe en petit fascicule, et donc c'était juste. Hop, après. Voilà, c'était des petits livres comme ça. Et ça, je trouvais ça génial. Il y avait plusieurs formats à chaque fois, des petits formats, des grands formats, des grands formats, des petits formats. Et graphiquement, je trouvais ça mais magnifique. Et j'étais à l'école des Beaux-Arts à l'époque, donc je trouvais ça mais tellement riche, tellement, tellement beau, tellement. Et comme je ne lisais pas l'anglais, bah, c'était totalement abstrait l'histoire pour moi. Donc je m'arrêtais uniquement sur. Alors il y a donc Jimmy Corrigan de Chris Ware et Mouse de Art Spiegelman. Voilà. Ça a été. Mais après, enfin je dirais avant, j'avais Bretéché quand même, mais bien avant, quand j'avais peut-être 15 ans, je lisais du Bretéché.
La dernière BD que vous avez lue et dont vous avez envie de parler. La dernière BD que tu as lue.
La dernière que j'ai lue, un auteur que j'aime beaucoup, John McNaught, L'été à Kingston Fields. Alors, c'est celle-là. Chez Dargaud,
Encore.
mais on l'a en version originale aussi, hein. Elle existe. Et donc, bah voilà, si vous connaissez pas, bah c'est vraiment splendide. Graphiquement, c'est beau, narrativement aussi, J'aime beaucoup parce que c'est très lent dans l'histoire. On s'attarde sur chaque détail, chaque action est développée un peu comme un film. Enfin, c'est moi j'aime bien ça. C'est un peu un huis clos aussi. J'aime bien. Voilà.
Et dernière question, en dehors de la BD, un livre qui t'a marqué?
Alors, La Dame Blanche. La Dame Blanche de Christian Bobin. C'est un livre sur la vie d'Emily Dickinson. Et Christian Bobin est un poète, écrivain français. Et voilà, il raconte sa vie et c'est très agréable à lire. C'est très poétique. Voilà, j'aime beaucoup. Je reviens souvent dessus. Vous voyez, toutes ces choses m'entourent, hein, elles sont jamais très loin.
Sandrine Revel, merci beaucoup pour ce moment passé avec nous.
Ben merci beaucoup. J'espère que bon, ça, je sais pas. J'espère que j'aurai été claire en tout cas. Mais en tout cas, ça, tout est venu du cœur. Hein, donc voilà.
Merci.
Merci. Au revoir.
Eh bien, voilà qui conclut cette nouvelle rencontre du 9e type. C'était Raymond Poirier avec vous. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver dans ce contexte. J'en profite bien d'abord pour remercier nos partenaires. Donc, évidemment, La Vie en BD sur CKRL 89.1, également Québec BD, de même que La Fabrique culturelle. Je remercie également de manière plus particulière Thomas-Louis Côté, directeur général de Québec BD, pour son travail à la technique pour cet épisode. La semaine prochaine, retrouvez-nous pour une dernière rencontre du 9e type avant le début de l'été, avant une pause estivale. Alors, la rencontre se fera en compagnie de l'auteur américain Derf Bagderf. Alors, c'est un rendez-vous et d'ici là, passez une très bonne semaine.